Et cette semaine, Blaise van der Linden est revenu avec Daniel Haber sur la pression américaine faite sur Israël pour permettre davantage de passage des camions humanitaires dans la bande de Gaza. On écoute l'avis de notre géopolitologue maison.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. Alors cette semaine, Daniel Haber, nous avons vécu une semaine intense. Il y a eu 7 humanitaires qui ont été tués dans une frappe accidentelle attribuée à Israël. Il y a une pression sur l'État hébreu. Cette erreur peut-elle marquer un tournant ?
Oui, c'est vrai que cette erreur qui aurait pas dû se commettre, mais qui a été commise, a été exploitée par tous ceux qui font des pressions pour Israël, pour renforcer ces pressions, à commencer par les Américains. Et on pourrait avoir l'impression que c'est là, Israël est un peu coincé, est un peu mis dans un coin. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ça puisse être un tournant pour deux raisons. D'abord, pour Israël, cette erreur, elle existe, elle fait partie de ce qu'on appelle c'est la guerre. Et deuxièmement, il ne faut jamais oublier qu'Israël a malheureusement tué ses propres soldats, vous savez, les 3 évadés qui ont été tués par erreur. Et aussi, on sait que dans toutes les guerres, il y a beaucoup de morts qui sont causées par le propre camp. Donc, pour Israël, ça fait partie d'hélas, des conséquences de la guerre, et ça ne peut pas marquer un tournant. Mais c'est vrai que ça pose une question sur l'augmentation des pressions. Et donc, ça nous oblige à poser une vraie question. C'est pourquoi les Américains font tant de pression pour qu'Israël cesse les opérations maintenant, ce qui signifierait une sorte de victoire du Hamas. Qu'est-ce qui peut bien intéresser les Américains à ce qu'Israël perde cette guerre? Ça, c'est quand même une très étrange. J'ai une hypothèse. Sur lequel j'aimerais que nos auditeurs réfléchissent aussi avec moi, c'est que les Américains sont en train de répliquer ce qu'ils ont cru avoir réussi en 1973, c'est-à-dire laisser les Égyptiens gagner une bataille. Ils ont perdu la guerre, mais Sadat s'en était sorti avec les honneurs, de telle façon que les deux parties, les Égyptiens et les Israéliens, avaient été affaiblis. Et donc, les deux parties ayant été affaiblies auraient été encouragées à se parler. Et c'est vrai que, mais ça a mis 6 ans, hein, en 79, il y a eu la paix entre l'Égypte et Israël, et ça a tout changé. Ça a tout changé, ça a changé la face du Moyen-Orient, ça a changé complètement la question palestinienne. Donc, si vous voulez, peut-être les Américains pensent-ils pouvoir réussir ce type d'opération, eux qui sont obsédés par la solution à deux États. Et peuvent penser que ça pourrait rapprocher la solution à deux États en affaiblissant Israël et en permettant une victoire relative du Hamas. C'est la seule hypothèse que je vois.
Alors, revenons à ces pressions dont on parle très régulièrement, Daniel. Peut-on les analyser en détail ?
Oui, parce que vous savez qu'il y a 3 pressions constante qui est sur le domaine militaire, dans le domaine diplomatique et le domaine de la communication. Et puis il y a une nouvelle pression qui vient d'arriver, qui est la pression intérieure, puisqu'avec la reprise des manifestations devant le domicile du Premier ministre et d'autres ministres. Donc les pressions ont été augmentées sur le militaire. Bon, la vraie pression, évidemment, c'est Rafah ou pas Rafah. Et donc Israël essaye de démontrer qu'ils vont prendre toutes les précautions pour battre le Hamas à Rafah en épargnant et en évitant ce qu'on appelle un bain de sang. Mais l'erreur de tir sur les humanitaires donne du grain à moudre à tous ceux qui disent « vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué, vous aurez trop d'incidents et trop de morts et on vous le permet pas ». Donc sur le plan militaire, évidemment, il y a une exploitation par tous ceux qui veulent le cessez-le-feu immédiatement, ils sont nombreux, de cette erreur de tir. Sur le plan diplomatique, on voit quand même une augmentation de la pression américaine, hein, c'est celle-là qui compte, avec le trio Biden, Kamala Harris et Blinken qui n'arrêtent pas de mettre en avant donc la question humanitaire, la famine, les camions qui n'entrent pas, etc. Alors qu'on sait très bien que en réalité, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas de famine, rentrent des camions par centaines, apportant de l'eau, du fuel, de l'électricité. Enfin, l'électricité, c'est les centrales. Gaza est alimenté en électricité, mais apportant des médicaments et apportant de la nourriture. Et puis, de temps en temps, donc, il y a des incidents, tout simplement parce que Gaza est chaotique et la distance distribution qui n'est pas gérée par Israël, elle est gérée par les organisations humanitaires, ben, il n'y arrive pas parce que c'est compliqué, parce que le Hamas met son grain de sel. Donc on voit bien qu'ils ont beau jeu d'utiliser l'humanitaire pour mettre une pression supplémentaire. La pression de communication, elle vient surtout, celle-là, des médias occidentaux. Avec des pages entières sur les morts, sur les enfants. On exploite évidemment l'émotion au maximal. Avec une nouveauté, peut-être, dans la communication anti-israélienne, c'est l'isolement d'Israël. Israël est isolé. C'est la page de garde d'un grand journal britannique qui fait autorité dans le monde, un The Economist, Israël isolé. Et un peu l'idée que, est-ce qu'un pays peut avoir raison contre tout le monde? Voilà, c'est un peu ça la pression qui est mise. Et puis il y a cette pression intérieure qui vient du fait que les Américains ayant trouvé habile de s'en prendre à Bibi personnellement, Biden a une dent contre celui qui a beaucoup 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 énervé Obama. Il faut pas oublier que Obama que Biden était le vice-président d'Obama et qu'Obama est toujours là à travers ses conseillers. Tous les conseillers d'Obama sont devenus les conseillers de Biden. Donc la pression obamesque, si j'ose dire, elle est là. Et donc du coup, les Américains s'en prenant à Bibi, ça a donné l'idée aux adversaires israéliens de Bibi de reprendre leur démonstration devant le domicile personnel de Bibi et d'autres ministres. Et donc on a un regain de cette division israélienne qui avait lieu avant le 7 octobre, qu'on croyait derrière nous. Elle revient maintenant, parce qu'au fond, la vie en Israël est assez normale, hein. Il faut bien dire qu'à part les fronts, la vie quotidienne à Tel Aviv et dans le centre est assez normale. Il y a du monde sur les plages. Et donc voilà, tout le monde en profite pour tomber sur Bibi. Et donc tout ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer pour cet homme.
Alors, Daniel, crise, guerre, comment en sortir?
Si vous voulez, Israël a depuis le début, s'est résisté à tout ça. Elle a l'habitude de ces pressions. Elle sait qu'il faut résister aux pressions et elle continue de gérer ses opérations militaires comme elle l'entend, aussi bien à Gaza que dans le nord, etc. Mais il a fallu qu'Israël trouve une voie de sortie. Et je pense que si je reprends votre expression du tournant, qui est une bonne expression, s'il y a un tournant, c'est dans l'assassinat ciblé des hauts militaires de la brigade Al-Quds des Pasdaran, des gardiens de la révolution iranien. Vous savez qu'ils ont été, il y en a 7 qui ont été tués, dont 3 hauts gradés de Adamas, de tout près de, alors pas dans un site diplomatique du tout, mais à côté. Et donc la vraie question, c'est que faisaient tous ces braves gens qui se réunissaient à Damas, sûrement préparaient un mauvais coup contre Israël. Et donc Israël a fait une frappe préventive, mais elle a obtenu une stratégie qui, à mon avis, est très habile, c'est de remettre l'Iran au centre du débat. Parce que depuis que 6 mois de guerre, ce sont les Iraniens qui sont les vainqueurs, ils ont semé un chaos mondial et on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que les Américains pensent utile de ne pas en parler. Les Américains, Biden, une de ses premières mesures quand il est arrivé au pouvoir en 2020, c'est de dire « je veux reprendre le dialogue avec les Iraniens ». Donc les Américains sont dans une stratégie d'apaisement avec l'Iran. Qui est pourtant leur principal ennemi. Et donc Israël, je pense, a eu raison de remettre l'Iran au centre, obliger les Américains à réfléchir au fait suivant. Si vous voulez tout mettre la pression sur la solution à deux États, vous vous trompez. C'est pas celle-là qui compte, c'est pas la question palestinienne qui compte, c'est pas la question du Hamas, qui n'est qu'un petit joueur. Il y a d'autres grands joueurs comme le Hezbollah et toutes les milices pro-israéliennes. Et puis le vrai joueur, c'est l'Iran. Et donc il faut pas se tromper d'ennemi. Le vrai ennemi, c'est l'Iran. Et on le remet au centre du jeu. C'est ça le tournant.
Eh bien, Daniel Haber, nous arrivons à la fin de nos conversations. Merci d'avoir été avec nous ce lundi matin et on se retrouve la semaine prochaine.
Absolument. Au revoir.